Pour faire le plein des découvertes musicales et voter pour vos artistes préférés, c'est au Francouverte que ça se passe. Du 13 mars au 15 mai, que vous soyez en salle ou à la maison, le concours Vitrine vous permet des soirées surprenantes sous le signe de la diversité. Rendez-vous à francouverte.com pour connaître toute la programmation, choisir vos soirées et visionner une foule de vidéos. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Salut, c'est Superplage et vous écoutez choc.ca.
Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Et oui, déjà l'épisode 222. Un beau chiffre 222 et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui à l'émission, nous serons deux. Malheureusement, la personne qui m'accompagne a eu des enjeux de stationnement et de voiture. Donc, je la vois arriver de bon train et c'est avec plaisir qu'on va l'accueillir tous ensemble. Mais pendant que cette personne va s'installer, je suis très, très, très contente de vous annoncer que le thème d'aujourd'hui, c'est la lutte. Et là, vous vous demandez, est-ce que la personne était réellement en retard ou est-ce que c'était un work? Très bonne question. Peut-être que je me fais worky en ce moment. Peut-être que je suis en train de faire un heel turn en ce moment pour throw under the bus la personne qui justement a dû rencontrer quelques petits pépins, peut-être même qui sait. Et là, c'est la preuve que tu vois, je suis pèse pas sur mon bouton. Là, tu me work pour vrai là, par exemple. Ah oui, tout va bien. Puis mettons que là, tu nous disais bonjour.
Allô!
Mais for real, prends le temps d'enlever ton manteau, là, il y a no stress.
Non, mais je suis prête, là, je me suis tapée. Il y a un nombre de SmackDown, voyons, en gros, je me suis tapée.
Ah, mais je suis tellement... En fait, OK. Allô, Hermanie?
Allô!
En fait, ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de faire une émission sur la lutte parce que, vois-tu, Hermanie, moi, dans la vie, ces temps-ci, il y a deux choses dans ma vie. Excel, ce logiciel béni des dieux qui nous permet de tout faire.
Tout utiliser, selon moi.
Vraiment. Et la lutte. C'est les deux seules affaires.
Je comprends.
c'est ça. T'sais, quand les gens ils me partent sur un de ces deux sujets-là, là, je n'arrête jamais.
Huh.
Puis là, j'étais comme... un peu d'envers du décor, là. On lance des sujets dans un groupe où est-ce que des gens font « Oui, moi, ça m'intéresse, moi, je joue. » Puis là, j'avais essayé de faire un appel sur comme « Yo, la lutte! » Puis il n'y avait comme pas eu vraiment d'engouement. Puis là, je me suis dit « Ouais, je dois être encore... je sais que la lutte est plus over qu'avant, mais peut-être pas assez pour se rendre dans notre groupe Facebook à nous autres. Mais quel plaisir n'ai-je pas eu d'apprendre que on avait la même fascination pour le divertissement sportif.
Oui.
Puis encore une fois, envers du décor, dans le fond, je peux commencer comme ça. En fait, la lutte, ce grand spectacle de sport qui est mis en scène à moitié, le parfait mélange entre la comédia dell'art et le MMA, 100%. Qui va chercher des codes partout, qui est constamment, que là, on va beaucoup parler de la WWE parce que c'est ce qu'on a consommé ou qu'on consomme actuellement, mais c'est sans vouloir donner de mauvais crédit à toutes les autres fédérations.
En fait, il y en a plein.
Exactement, puis je commence là maintenant à zioter un peu les autres choses qui existent, mais je ne suis pas encore assez spécialiste pour vraiment pouvoir
en parler.
Merci. Puis Hermanie, d'abord, tu me disais que... toi, c'était comme une passion que tu avais, mais que tu avais délaissée un peu. Est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours avec la lutte?
En fait, mes parents étaient des amateurs de... À l'époque, c'était la WWF.
Mm-hmm.
Fait que je les écoutais avec eux parce que tu as genre comme 4-5 ans. Fait que tu écoutes ça avec eux. Ben, j'ai continué. Puis tu sais, comme il y a eu la grosse vague avec The Rock, Stone Cold Steve Austin, tu sais, genre les grands que moi je connais. Puis c'est pas du jour au lendemain, ça a comme arrêté. Je me dis que je suis devenue genre comme pré-ado, puis j'ai eu d'autres intérêts. Mais tu sais, genre, chez nous, j'ai genre le DVD spécial de genre The Best of the 90s. Fait que c'est tous les grands, là, genre les Yokozuna, Hulk Hogan, les frères Hart, tout ça, j'étais comme 100% dedans. Puis je pense que ce que j'ai vraiment aimé, c'est peut-être pour toi aussi, mais j'aimais, tu sais, comme tout le côté éclaté. Puis aussi, je pense que c'est vraiment la diversité de voir autant de gens. De un, tu sais, c'était rare que je voyais des gens qui me ressemblaient.
Mm-hmm.
Fait qu'il y avait genre des lutteurs, non, mais il y avait des lutteurs de genre tous les horizons. Puis tu sais, où j'allais à la garderie, oui, à ma famille, mais il y avait comme plus à la lutte que dans la vraie vie. Puis il y avait toutes sortes de corps. Il y avait toutes sortes de femmes. Parce qu'il y avait aussi China qui est devenue Xena. Mais il y avait aussi, genre les typiques femmes, plus à la genre Charlotte Flair, puis tout ça.
Est-ce que China est devenue Xena parce qu'elle a changé de compagnie ou parce que...
Je pense que ça a donné l'exposure pour devenir Xena, en fait.
Ah, OK.
Parce qu'elle était vraiment juste plus un genre des tag teams de Triple H.
OK.
Avec Shawn Michaels. Puis, en plus, durant une période, elle et Triple H ont sorti ensemble.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
C'est ça. Puis, je pense que ça a donné l'exposure pour être Xena. Mais tu sais, j'ai jamais vu de femme qui ressemblait à China aussi.
Et qui était célébrée aussi.
Oui, d'avoir un corps comme... Pas que c'est un corps atypique, mais c'est pas un corps qu'on voyait dans les médias.
Exact.
Elle était célébrée, puis elle se cachait pas. Elle faisait vraiment comme... Ce que j'aime avec genre la lutte, c'est qu'il y a vraiment no shame de jouer avec les genres, d'être qui tu... Comme, tu sais, je pense que c'est ça que je disais ce week-end avec mon chum. Je disais que je me rends compte que la lutte, c'était c'était la première fois que je voyais la transidentité.
Mm-hmm.
Puis il y avait un personnage que je comprenais pas qui s'appelait Goldust.
Oui, oui, oui.
Puis je comprenais pas. Puis en fait,
maintenant, Dusty Rhodes à AEW.
Oui, oui. Puis ça, j'ai découvert ça aujourd'hui. puis genre, je pense que genre, quand j'étais plus jeune, j'avais peur parce que je comprenais pas ce qu'il représentait. Puis là, mon père était comme, mais non, comme, c'est juste, tu sais, il était comme. Tu sais, mon père était comme, non, mais c'est normal. Mais je pense que sans s'en rendre compte, des figures comme Goldust, ça touchait à des hommes qui étaient peut-être plus dans la masculinité toxique. Parce que quand c'était la lutte, ah, oh, c'est normal, on s'en fout. Mais dans la vraie vie, ah, oh, tout d'un coup, c'est weird. Puis t'es comme, attends, mais ils sont tous colorés, là, ils portent des paillettes, ils se maquillent,
ben oui.
Puis on crie, puis on cheer, mais rendu dans la vraie vie. Parce que ça, c'est une autre conversation. Mais la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui jouait à ce point avec les genres, c'était Goldust quand j'étais jeune. Bref, j'aimais tout ça, toutes les histoires aussi, genre, même si mon père, tu sais. Ça fait plus que 30 ans qu'il est au Canada, mais il est quand même haïtien, là. Mais tu sais, genre, il était vraiment fier de me dire que les Bret puis Owen Hart, c'était des Canadiens.
Oui, oui.
Je pense qu'un des premiers crush, c'était The Rock. Can you smell what The Rock is? Je le trouvais tellement beau. Tu sais, tout ça, c'était juste génial.
J'ai montré des images aujourd'hui de la fin de Raw d'hier, dont on va absolument revenir sur cette situation-là.
Dang.
I know, mais j'ai montré des images donc de cette situation-là. Donc, on voyait tous les Usos.
Mm-hmm.
Tous les Usos de cette... qui est de toutes les Usos du Bloodline, sauf leur cousin, là, finalement.
Ouais.
Mm-hmm. Puis les gens qui regardaient la vidéo étaient vraiment comme, « Damn, c'est tellement des beaux gars, là. » Ça a comme pas rapport, là. Mais Jay et Jimmy, c'est vraiment des beaux gars.
Oh my gosh! Comme, chaque fois qu'ils en débarquaient un, j'étais comme, « I'm... » Comme, OK, je l'avoue, comme... Je connaissais pas tout. Donc là, à cause d'Elisabeth, j'ai redécouvert les récents joueurs de la lutte. Mais à cause d'une autre histoire aussi plus tard que je pourrais peut-être raconter. Mais là, je regardais genre un match. Non, je regardais le talk shit entre Roman Reigns puis le dude blond qui ressemble à un personnage
Cody Rhodes.
De Boys. Il me fait vraiment peur.
Cody Rhodes. Donc, le frère de Goldust.
Oh! Le monde est tellement petit dans la lutte.
Mais ça, c'est toute une histoire. Si tu savais pas ça, dans le fond, c'est qu'il y a comme 4 ans à peu près, dans le fond, ils ont parti une fédération de lutte qui est la AEW.
OK, oui.
Puis le propriétaire, c'est Tony Khan, mais qui est apparemment pas parent avec Nick Khan, qui est comme le co-CEO de... apparemment, ils se connaissent pas, ils se sont même jamais rencontrés, mais
wow,
bon. Okay. Anyway, fait que Tony Khan, il est propriétaire de la fédération, mais les lutteurs, si tu veux, comme qui étaient les têtes d'affiche de la All Elite Wrestling, c'était toute la gang de Being the Elite. Fait que t'avais Kenny Omega, puis qui a beaucoup rayonné au Japon, entre autres, et tout ça, qui était pendant longtemps considéré comme le plus grand lutteur du monde. Pas dans le sens qu'il était grand, mais dans le sens qu'il était très talentueux. Puis si on veut parler de non-masculinité toxique, je pense que Kenny Omega est un... est une représentation de la non-masculinité toxique, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Les Young Bucks, et associé à eux, dans les plus grandes têtes d'affiche, t'avais Cody Rhodes, qui dans le fond, était parti de la WWE parce qu'il n'y avait pas du bon booking, puis ça marchait pas, puis tout ça, puis il est parti, puis là, il n'y avait pas accès à son nom. Parce qu'il y avait, il y a vraiment une grosse affaire avec les noms, avec la WWE, où est-ce que, comme, tu peux pas reprendre... Tu sais, oui, quand tu finis ton contrat ou quand tu t'en vas, tu peux pas... lutter dans une autre fédération pendant comme 90 jours. Là, mais en plus de ça, c'est que toute la gimmick qui a appartenu à la WWE, tu ne peux pas la réutiliser dans les autres places.
Ben, je peux comprendre. Ça prend du temps, là, build un persona.
Ben, pis c'est pour qu'il continue à peut-être vendre de la merch, même si la personne va lutter ailleurs, puis tout ça aussi. Puis c'est ça. Ben, tu sais, Cody Rhodes, c'était son vrai nom. Ça a vraiment fait de la marde, parce que c'est comme... Yo, c'est mon histoire, c'est mon père, c'est mon frère. Puis là, il pouvait pas y avoir accès. Fait que ça a pris vraiment du temps pour pouvoir avoir son nom. Puis quand il a pu le ravoir, là, il a parti dans la All Elite Wrestling. Puis il était vraiment over. Puis finalement, son contrat, c'est... Il a pas renouvelé son contrat. Puis là, il est allé à la WWE. Il est retourné en héros avec son nom. Mais depuis... Genre, une semaine après son arrivée, la WWE a officiellement annoncé, parce que déjà, des fois, ils modifiaient les noms, puis les gens étaient comme, pourquoi son nom dans les indies, c'était ça? Puis il y en avait beaucoup que c'est parce qu'ils voulaient protéger leur nom des indies. Okay. C'est pour ça que Sami Zayn, c'est pas son vrai nom, là, son vrai nom. Mais son nom dans les indies, c'était El Generico.
Okay.
Puis là, il a pris le nom de Sami Zayn pour se. Dans le fond, pour protéger El Generico. Il voulait pas que El Generico appartienne à la WWE. C'est ce que j'en comprends.
Okay. Which is wise,
c'est ça. Mais là, c'est littéralement que dans le fond, dans les règlements de changement de nom, les personnes qui viennent lutter peuvent pas utiliser leur nom sur les indies, peuvent pas utiliser leur vrai prénom ou leur vrai nom de famille.
OK. Ben, c'est une bonne conséquence. Ben, c'est une bonne conséquence de ça, parce qu'en effet...
Ben, c'est ça. Fait que Cody Rhodes... Pourquoi on parlait de ça? À cause de SmackDown de la semaine passée. Parce que toi, tu parlais de dans le fond, du talk shit de Roman Reigns contre le Gobelon. Parce que c'est la première fois qu'ils se sont rencontrés depuis que Cody Rhodes a gagné Royal Rumble. Parce qu'il y avait comme un espèce de build-up, mais c'était jamais face à face. Le vendredi passé, ils se sont rencontrés en vrai.
Bon, ben, vendredi passé, pas mon chum, je suis tombée en amour avec Roman Reigns. Je l'ai vu arriver, parler, puis j'étais comme, who is this man?
Est-ce que tu connais un peu Roman Reigns?
Ben, j'allais faire une full recherche sur lui. J'étais comme, who is this guy? Là, j'étais genre à mon chum, j'étais comme, non, mais lui, c'est le prochain de Rock. Là. Je suis comme, comment il n'y a pas de film? Comment il n'y a personne? J'étais comme, il est parfait. J'étais comme, face, son legacy, sa famille. J'étais comme, wow.
Mais c'est drôle que tu dis ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est sa dernière année à la WWE. Puis son jeu d'acteur en 2-3 ans, c'est fou comment il a topé. Moi, je pense qu'il s'entraîne beaucoup, puis je pense qu'il y a des coachs d'acting aussi. Parce que ça l'a vraiment beaucoup changé. Puis, fun fact, dans le fond, c'est que ben, c'est effectivement le cousin de Rock, là. Fait que, tu sais, ça
Ils sont dans la même. Ils sont pas reliés par le sang.
Ah non?
Non, j'avais lu une grosse affaire que The Rock est relié par eux, mais pas par le sang, parce que la mère à The Rock, elle a été adoptée.
Ah, mais ils sont dans la même famille.
Dans la même famille, elle a été adoptée par cette famille-là, mais c'est pas par le sang, mais il fait partie de cette famille-là comme.
Je comprends. OK, ouais, c'est bon. Mais ben, en tout cas, il se revendique quand même de
oui, of course, oui.
Que c'est toute la famille. Puis, de toute façon, Sami Zayn était dans le Bloodline, puis il y a aucun...
The heck. Mais toute cette histoire-là, bref.
Mais ça, c'est fou. Mais pourquoi je parlais de Roman Reigns? C'est ça, c'est que dans le fond, Roman Reigns était dans une gimmick avec... comment il s'appelle? En tout cas, John Moxley, là, mais il y avait un autre nom à la WWE, puis Seth Rollins et Roman Reigns pour mettre The Shield. Puis c'était vraiment une grosse affaire. Puis là, Seth Rollins que t'as vu dans le Raw d'aujourd'hui, là, qui est rendu comme super éclaté, puis tout ça. Puis, mais il était pas comme ça il y a quelques années. Là. Il a fait ce turn-là il y a 2 ans. Puis Roman Reigns est devenu babyface, puis il était devenu comme un peu la tête, comme le top babyface. Mais les gens l'haïssaient. Mais les gens.
Mais comme The Rock, en fait. The Rock, tout le monde l'aimait pas.
C'est ce que je me suis fait expliquer.
Fait
que
le monde détestait vraiment son persona.
Mais ils ont vraiment comme comme des storylines proches de vraie vie, là. Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que À un moment donné, Roman Reigns est rentré dans le ring puis se faisait huer parce que c'était tout le temps hué. Mm-hmm. Les gens le détestaient, comme je disais. Mais dans le fond, ce que je me suis fait expliquer, c'est quand les gens huent, ils huent. Ben, des fois, ils huent parce que c'est un heel, mais quand ils huent les babyface, souvent, c'est pas qu'ils huent la personne, c'est qu'ils huent les writers, dans le fond.
Oui, parce que des fois, genre, comme, c'est pas que t'aimes pas la storyline qui est écrite pour la personne.
Ben, c'est ça.
Tu te dis comme, mais comment tu me l'as construit? Je suis pas en accord.
Exactement. Puis là, c'était comme, ce qu'on m'expliquait, c'était que c'était vraiment le feeling. Parce que moi, quand j'ai commencé à écouter la WWE, c'était en 2018.
Ah ouais, on a vraiment une histoire vraiment complètement différente.
Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis je trouvais ça super bon. Puis Pierre-Luc Racine, qui est un auteur humoriste et tout ça, qui dit il y a deux sortes de personnes. Ou c'est-tu lui ou en tout cas il y a deux sortes de personnes dans vie, les gens qui aiment la lutte puis les gens qui ne le savent pas encore.
Mmh.
Puis là j'avais commencé à l'écouter à ce moment-là. Puis Roman Reigns était dans sa phase où il se faisait huer. Puis éventuellement il est arrivé, il se faisait huer. Puis il a dit à tout le monde je dois quitter parce que j'ai des traitements à les faire parce que j'ai la leucémie.
Pis, pardon?
Oui, c'est ça. Fait que là, les gens ont arrêté de huer.
Pis... Parce que genre, ça te prend comme off-guard, là. T'es genre, pardon?
Ben, et c'est ça. Puis là, ben, tout le monde était comme, what the... Puis là, mais là, il s'est fait, t'sais, genre, thank you, Roman. Puis là, les gens étaient comme, on t'aime, là. Puis ça a vraiment switché vraiment vite. Puis il est revenu. Puis là, j'écoutais pas à ce moment-là. Fait que je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais il est revenu, il est devenu ill, puis il est devenu... The shit. Genre, pis il était ill, mais tout le monde l'aimait jusqu'à son turn sur Sami Zayn. Pis c'est Sami qui a tout changé. Pis pourquoi je parle de tout ça? Parce que Cody Rhodes, qui était comme l'enfant chéri, qui s'était exilé, qui avait parti le plus grand compétiteur, qui pendant 2-3 ans était considéré comme un meilleur produit que la WWE, mettons, okay, avant l'arrivée de Triple H, mm-hmm, dans le creative.
Enfin.
Oui, enfin. Quand il est revenu, il est arrivé en héros, mais il s'est blessé à Hell in a Cell, juste avant Hell in a Cell. Il s'est blessé dans un entraînement. Il s'est déchiré un pectoral.
Oh my, comme t'es fuck, là.
Ben c'est ça, mais lui, il s'enlignait, là. C'était quasiment écrit dans le ciel qu'il s'enlignait pour gagner une ceinture.
Oh.
Mais là, sa réhabilitation, ben son réadaptation, puis tout ça, ça a été long. Fait qu'il est revenu à Royal Rumble cette année. Puis là, il était accueilli en héros. Mais pendant qu'il était pas là, Sami était devenu ce qu'on m'expliquait, un babyface organique. Tu sais, c'était pas comme, on le poussait pas. Tu sais, Cody Rhodes, il est apprécié, puis les gens l'aiment vraiment beaucoup. Puis...
Mais il est plus liché aussi comme personnage.
Ouais, mais puis il a été heel longtemps aussi. Tu sais, c'est un excellent heel aussi. Là. Okay. Tu dis qu'il fait peur, là. Moi aussi, il me fait peur. Là. Crime. Mais c'est ça. Mais là, en ce moment, il est top babyface parce que c'était la plus grande menace qu'on pouvait mettre contre Roman qui dominait tout. Mais la montée de Sami qui était comme, je pense, arrivée comme, qui n'était pas prévue, mais qui est arrivée, fait que là, quand il a fait sa fameuse rencontre, moi, j'écoutais SmackDown vendredi dernier, puis j'étais comme, c'est pas bon. C'est pas bon, l'affaire de Cody. C'est pas assez fort. C'est pas assez fort pour que lui détrône le gars que ça fait 900 jours qu'il est champion.
Je comprends.
Tu sais, c'est pas... Puis sa réplique était pas assez... Je sais pas, je trouvais ça vraiment pas assez fort. Surtout que quand Sami arrivait, parce qu'il fait tout le temps des stuns depuis Royal Rumble... Depuis que, quand il arrive, les gens, peu importe la ville, parce qu'évidemment, Elimination Chamber qui s'est passé à Montréal, où Sami a perdu.
Ça, là, j'étais comme disrespect en passant. Ils font tout le temps ça!
Faire perdre. Mais, puis il a comme un peu perdu par genre, tu sais, comme un genre de screwjob-ish, là, tu sais, comme, non, mais tu sais, dans le sens que comme, ils ont avec l'arbitre, puis ils ont comme assommé l'arbitre. Fait que, à cause qu'il avait assommé l'arbitre, la foule comptait 1, 2, 3, Sami avait gagné, mais l'arbitre était knock-out. Okay, écoute, la grosse affaire. Puis,
À Montréal. Ça, je disrespect, moi, je trouve.
Mais il est parti en héros quand même.
Je sais, mais c'est pas le cas.
Il est parti en héros quand même. Puis, puis les gens, écoute, c'était... C'est ça. Je pense... Mais j'étais contente qu'il gagne pas parce que moi, j'étais comme, à ce moment-là... L'affaire, c'est parce que tout le monde pensait, ce qui avait été leaké comme information, c'est que les Usos allaient être en tag team contre Kevin Owens et Sami Zayn à WrestleMania. Ça, c'est ce qui était prévu. Mais ça, c'est ce qui était prévu il y a des mois.
OK, puis j'étais comme, ils sont en beef, j'étais vraiment déchirée quand j'ai vu qu'ils voulaient pas, j'étais comme, pourquoi?
Ben oui, parce qu'à Survivor Series, Sammy a piné Kevin dans un war game. Fait que comme c'est lui qui a, c'est Sammy non, il a donné le pin à Roman en plus, ou à Jay. En tout cas, il a donné le pin à quelqu'un. Il l'a assommé puis il a donné le pin pour démontrer qu'il était enfin digne de faire partie de la Bloodline. Puis c'est à ce moment-là qu'ils l'ont accepté comme un membre total de la Bloodline. Fait que là, Kevin était comme « je taillis ». Mais là, il est allé lui sauver les fesses à Elimination Chamber. Puis l'explication qu'il a donnée à Ra après, c'était pas parce qu'il voulait redevenir ami avec lui. L'explication, c'était « toi, tu m'as humilié devant tout le monde, devant ma famille, devant mes enfants. Moi, je voulais juste t'éviter cette humiliation-là parce que je suis une meilleure personne. Mais je veux quand même rien savoir de toi. » Ça, c'était la semaine passée. C'est ça, la semaine passée? En tout cas, c'était au Ra qui a suivi. Mm-hmm. Et là, Kevin et Sammy qui s'entendent pas, dans le fond d'une promo, ben dans le fond d'une discussion là, de backstage, mm-hmm. là, tu vois Kevin Owens et Cody Rhodes se parler. Et tout ça est important. Parce qu'en ce moment, là, toutes ces affaires-là, là, ils mettent des Easter eggs partout. Fait que là, t'es comme, OK, fait que l'histoire, c'est Kevin qui envoie promener Sammy, mais qui va demander à Cody, moi, je peux pas le faire, mais toi, peux-tu aller le sauver, s'il te plaît? C'est ce qu'on déduit. Et c'est la même chose que je pense qui s'est passé avec Joe Uso, parce que dans le fond, tu sais, tu parlais des heels puis de tout ça, là, mm-hmm. comme on parlait de transidentité puis tout ça, puis ce que je trouve intéressant, c'est que la lutte, pour moi, vu que ça se passe, c'est en direct, mm-hmm. puis c'est hebdomadaire. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, ils arrêtent pas, il y en a même à Noël, tu sais, il y en a tout le temps.
Non, c'est never-ending story,
là. Fait que, tu sais, je te dis pas que c'est les affaires les plus woke ever, là. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'ils sont très, très, très réactifs à plein de choses. Contrairement, des fois, mettons, je m'étais fait expliquer à un moment donné que, par exemple, dans l'univers des super-héros, souvent, les bandes dessinées sont plus collées sur une réalité contemporaine que les films, parce que souvent, les films reprennent des storylines d'il y a 15-20 ans de BD.
Oui.
Puis, tu vois, mettons, si on pouvait... comme considéré comme heel, quelqu'un qui pourrait être dans une identité de genre comme qui paraît flou. Mm-hmm. Aujourd'hui, Roman Reigns est le plus grand heel de toute la division de WWE et c'est littéralement son illness là, qui a commencé quelques semaines avant Elimination, avant Royal Rumble, est basé uniquement sur le fait qu'il représente la masculinité toxique. Parce que il a commencé à dans le fond, c'est comment ça a commencé, c'est que Sammy était populaire. Mm-hmm. Roman Reigns, ils ont commencé à installer le fait qu'il était peut-être un peu jaloux de la popularité de Sammy.
Mais c'était tellement organique.
Exact. Et ensuite, ils ont commencé à péter des coches, à être violent envers tout le monde de son groupe. Mais à chaque fois que ça arrivait, il allait s'excuser en disant, mais tu sais, j'ai vraiment beaucoup de pression. Puis tu sais, je m'attendais pas à ce que tu le fasses comme ça. C'était imprévisible. Fait que tu sais. Mm. Genre, excuse-moi d'avoir peut-être pas été capable de prévoir ce que t'allais faire. Puis là, tu sais, vu que je suis quand même responsable de tout le bloodline, tu sais, nanana. Fait que c'est du gros gaslight à côté, semaine après semaine après semaine après semaine. Puis c'est pour ça que Sammy a pété sa coche, tu sais. Puis.
Huh.
Puis c'est pour ça que Jay, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'à SmackDown la semaine passée, Jimmy s'est fait dire, parce que Jay a quitté le bloodline mm-hmm. après le Royal Rumble.
Ce que j'ai compris, puis j'étais comme, what's going on?
Ben, c'est ça. Et là, Roman a dit à Jimmy, si tu réussis pas à convaincre Jay de redevenir totalement un membre du Bloodline d'ici la fin de la semaine, tu seras le responsable et je vais m'occuper de toi. Fait que quand Jay est rentré dans le ring à la fin de Raw de hier, mm-hmm. ça fait 20 minutes, je pense que je parle juste de ça, là, mais
c'est correct.
C'est tellement fascinant. Quand Jay est rentré dans le ring hier, puis qu'il mm-hmm. a parlé avec Jimmy, puis il a tweeté aussi. Ça, c'est l'affaire aussi, c'est que maintenant, les réseaux sociaux
est une grosse partie, oui.
est une extension du kayfabe. En grosse partie, tu sais, des fois, ils sont comme, ils font des interviews non kayfabe et kayfabe, puis tout ça. Puis là, ils ont commencé à faire des conférences de presse post pay-per-view, qui s'appellent maintenant les.
Oui, mais ça, il y a pas ça quand j'écoutais ça quand j'étais jeune, fait que je trouve ça cool.
Ben, c'est ça, ils ont comme commencé ça récemment, puis. Triple H a commencé ça récemment. Puis, quand t'écoutes les entrevues, des fois, c'est full kayfabe, puis des fois, ça l'est pas du tout. Fait que c'est quand même intéressant, mais Jay, quand il a turn sur Sammy hier, je crois que... Il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui connaissent pas la lutte, là, je sais. Fait que quand on dit que la personne est babyface, ça veut dire qu'elle est très gentille, heel est très méchante. Quand on dit qu'il a turn, ça veut dire qu'il a trahi l'autre côté. Puis souvent, c'est une personne qui était gentille qui va faire un turn sur une personne gentille et donc devenir méchant. Mm-hmm. Et là, ce qu'on a vu avec Sami Zayn, c'est quelqu'un qui a turn sur un méchant et qui est donc devenu gentil. Puis apparemment, je me suis fait dire, ce n'est pas très commun, apparemment. Bon, je connais pas assez ça, là, parce que je veux dire, j'ai commencé à écouter en 2018, j'ai arrêté au début 2019 parce que j'avais juste pas le temps d'écouter 7 heures de TV par semaine. Je suis revenu à l'écouter en 2022, à peu près en septembre, et depuis, je n'ai pas arrêté. Et je n'écoute que ça. J'en écoute que ça, j'écoute des documentaires là-dessus, j'écoute des top 10 là-dessus, j'écoute des podcasts de ça. Là, genre, il y a beaucoup d'informations que genre, j'acquiers, mais que j'ai pas vécu. C'est ça, j'ai pas la nostalgie de, mais là maintenant j'ai plein de référents comme tu m'aurais parlé de Yokozuna puis j'aurais pas su c'était qui mettons il y a 6 mois, tu sais.
Yokozuna c'est tellement triste quand WWE fait parce qu'en fait il y avait un trouble alimentaire puis il en est mort puis tu dis mais la lutte est comme complice de ça parce qu'il poussait en fait à prendre du poids puis à garder ce poids là puis quand il en tout cas bref, c'est toute une histoire là mais c'est une sad story Yokozuna.
Ben oui, puis la WWE n'en est pas à ses premières bévues en termes de manquement à la santé, là, disons ça comme ça, là, toute la crise des stéroïdes et tout ça qui est arrivé. Pourquoi je parlais de ça? Oui, c'est ça. Je pense que Jey Uso, quand il a turn sur Sami, puis qu'il est redevenu méchant, puis qu'il a rejoint le Bloodline, et qu'il a écrit sur Instagram aujourd'hui « Family first », je crois qu'il est encore dans une perception que Roman est toxique, que Roman n'est pas une bonne personne, mais qu'il ne peut pas laisser son frère se faire... avoir le courroux de Roman.
Mais là, est-ce que... Je vais faire une aparté pour que tu veux juste me penser à la famille Hart, puis aux chicanes que Bret et Owen Hart avaient, mais qui étaient mélangées avec la réalité, Ben, je me dis, j'espère, parce que là, je viens de retourner à ça, j'espère que c'est vraiment strictement que pour ça, puis que ça pas, parce que genre les Hurt, ça a vraiment empiété sur leur vie personnelle.
Je pense que c'est très... je pense pas que ça a des impacts sur... Parce que ils font partie... Mais écoute, c'est mon point de vue, là, je peux peut-être me tromper, là, mais je pense sincèrement que tout le monde est consentant dans cette situation-là, parce que je pense pas que... Tu sais, de ce que j'ai compris, Triple H a vraiment une approche de le plaisir avant tout. On est des êtres humains, puis tout ça.
Puis lui, il a vécu. Il a vu tous les gens, les déboires, les chicanes, les comme peut-être qu'il veut pas que la nouvelle génération...
Peut-être. C'est ce que je pense aussi. Puis c'est Shawn Michaels qui est... Parce que dans le fond, Triple H était responsable de NXT, qui est comme une autre émission qui était à un certain moment quasiment équivalent à... Qui était pas pareil dans le sens que c'est pas live. C'est pas 3 heures, c'est 2 heures.
C'est un autre médium quasiment, je trouve. C'est pas la même.
Mais on m'a dit pendant longtemps que la qualité des shows était à la qualité de Raw ou SmackDown.
Okay.
Mais dans le fond... Au départ, tout le monde a commencé là. Les Uso ont commencé là, je crois. Mais assurément que Kevin Owens et Sami Zayn ont tous commencé là. Puis c'était vraiment comme une espèce de... Au début, c'était comme une télé-réalité. Un peu comme Who's Gonna Be the Next Wrestler, genre.
Okay.
Puis ensuite, c'est devenu un show en soi, mais qui servait beaucoup à apprendre des talents des indies puis des habitudes d'être à TV. Tu sais, comment se placer, comment que la caméra peut, si, ceci. Et là, par la suite, Triple H s'est fait enlever son bébé, parce que c'était son bébé, NXT. Il s'est fait enlever, puis Vince McMahon a comme un peu comme décidé qu'il contrôlait un peu ça.
OK.
Mais maintenant, c'est Shawn Michaels qui s'en occupe.
J'aime tellement Shawn Michaels.
Je le connais si peu.
Mais
il n'y avait pas un gros beef entre Shawn Michaels, puis à cause du Montreal Screwjob, puis tout ça, là?
Sais-tu quand... Il est venu voler le titre à Bret Hart à Montréal.
Ben oui, mais que c'était arrangé parce que Bret Hart voulait pas partir avec la ceinture, mais il s'en allait à la WCW genre le lundi d'après.
Je veux juste dire qu'ils font juste disrespect Montreal. Chaque fois, je suis comme, what are you doing? Je suis comme, vous pouvez pas laisser le Canadien gagner au Canada. Mais...
OK.
Comme, je sais que c'est Heartbreaker Kid, but laissez-le gagner au Canada.
Moi, ce qui me mettait en tabarnak, c'est que j'étais comme, c'est tellement une bonne histoire, l'histoire de Jey, l'amitié entre Jey et Sami, que quand je m'étais dit c'est impossible que ça va finir en tag team. entre Kevin Owens puis Sami Zayn contre les Usos. J'étais comme, j'y crois pas. Ça m'a mis en tabarnak. Ça m'a plus mis en tabarnak. J'étais déjà mindé que Sami allait probablement perdre. Mm-hmm. Parce que j'étais comme, je pense que Roman va perdre sa ceinture à WrestleMania contre Cody peut-être puis tout ça, mais ça
a l'air de ça, mais j'aime pas, je serais genre à huer.
mais ça m'a vraiment mis en crise. Ça m'a mis plus en crise d'avoir l'impression que ça s'en allait vers ça que qu'ils perdent, parce que j'ai fait comme c'est bad. Deux, trois semaines plus tard, j'ai une autre opinion parce que j'aime l'histoire qu'on nous raconte. Ils vont peut-être se battre dans WrestleMania, mais que finalement, Jay, dans le fond, va peut-être laisser les... Comme soit il va essayer de gagner, mais que dans le fond, une fois que ça s'est réglé, peut-être de dire comme... Peut-être aller aider Cody ou comme à son match pour que Roman perde une ceinture. Ou, ben, il va perdre les deux ceintures s'il perd son combat.
Oh my gosh, je perds deux ceintures.
Mais c'est parce que l'affaire, c'est que...
It's hard.
Au départ,
tout le monde... It's hard, perdre deux ceintures.
Ouais, mais il est pas fin. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que tout le monde disait que, dans le fond, ça allait être Roman contre The Rock à WrestleMania 39. Ça se passe à LA, c'est WrestleMania Goes Hollywood. Tout le monde était sûr que c'est ça qui allait se passer.
En même temps, j'ai pas... En vrai que je suis comme... Tu me dirais si j'ai tort, comme j'aime le côté, parce que genre... Je me rappelle quand The Rock était là, oui, on voyait cette famille-là, puis toute la... Ce qui est cool, c'est qu'on voit toute la culture, puis l'hommage à genre au catch genre des Samoans.
Mm-hmm.
Fait que j'aime que genre cette famille-là est mise en avant. On dirait que j'ai peur qu'elle soit genre comme utilisée à des mauvaises fins pour qu'on ait une mauvaise image de genre leur héritage.
Non,
j'ai juste peur.
Les gens les adorent. Les gens les adorent. Mais c'est ça l'affaire, c'est ça, c'est que les gens les adorent. Mais comme, tu sais, ils étaient pas fins, mais les gens... cheerait, là, comme...
Moi, je l'ai pardonné, c'est tellement beau.
Mais c'est que les gens les aimaient, là, ils étaient comme... Tu sais, ils étaient over, là. Tu sais, comme, dans le sens que, justement, ils étaient tellement populaires, les gens les aimaient. Mais tu sais, c'est comme... C'est ce genre de méchant-là qui était comme too much nice. Puis, pour vrai, Roman Reigns... Mais c'est pour ça que la promo avec Cody, c'était vraiment bizarre. Parce que, techniquement, Roman Reigns, c'est le plus gros méchant en ce moment, puis tout le monde l'haït. Mais... On dirait que le fait qu'il force avec Cody, là, les gens commencent à cheer pour Roman. Parce que je pense que les gens veulent pas que Cody gagne, parce qu'ils sont pas d'accord avec ça.
Ben, en tout cas, du peu que j'ai compris, en tout cas, j'ai pas l'impression, parce que je le connais absolument pas, Cody, là, mais du peu que j'ai vu, en fait, que j'apprécie pas tout le personnage qui a été créé, la gimmick. Il y a rien qui... Ça me fait juste penser à genre du old school, mais comme mal réinventé. Je suis juste pas... On dirait que ça me...
Ben, je pense que... Mais c'est pour ça que le fait qu'il l'ait inclus dans la storyline avec Kevin puis Sami, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que là, comme clairement, Cody peut pas monter tout seul. Il peut pas monter puis être over puis devenir la tête babyface tout seul. Fait que là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de le faire...
Avec du monde plus likable.
Puis qu'ils vont le mettre ses épaules de Sami. Parce que techniquement...
Cody justice va... for Sami!
I know. Mais attends. Ce que j'ai fini par réaliser, je crois, mais c'est de la spéculation, là, mais ce que j'ai fini par
réaliser... Spéculons.
Ce que j'ai fini par réaliser, c'est que j'étais comme... On parle de tout ça comme si il préparait WrestleMania 39.
Mm-hmm.
Mais je suis comme... Je pense qu'il prépare WrestleMania 40. Puis que cette storyline-là va juste... va mouvoir, va devenir...
Ben, c'est 40 quand même, ouais.
Mais c'est ça. Fait que moi, je pense que ça va être... À partir de WrestleMania 39, je pense que ça va être la déchéance de Roman Reigns qui va probablement se terminer. Parce que The Rock a dit que finalement, il ne serait pas là à 39, mais qu'il serait partant pour 40. Parce que c'est quand même un gros chiffre. Puis, ouais. Il était là à 30 avec Hulk Hogan puis Stone Cold Steve Austin. Ils ont ouvert le show puis tout ça. Fait que j'ai pas ça qu'il est comme... Moi, je veux pas être reconnu comme le gars qui s'est battu contre mon cousin au 39. Je veux être reconnu comme le gars qui a fait le plus gros main event de WrestleMania 40. Moi, je pense que c'est ça qui se passe.
Mais en fait, si on était... C'est relationné, on ferait la même chose. On serait comme, ben non, on n'est pas... On n'est pas The Rock pour rien.
Ben, c'est ça, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est vers ça que ça s'enligne. Puis que dans le fond... Ils font étirer la sauce de ça. Puis c'est pour ça que Cody va peut-être même pas gagner à WrestleMania. Parce que au départ, les gens étaient comme, c'est sûr que Cody va gagner. Mais après sa blessure, comme, tu sais, quand il était en train de. On savait qu'il allait revenir de sa blessure. Puis qu'en même temps, l'affaire de Sami arrivait, je pense que les gens étaient comme, oh yes, Cody va gagner la ceinture. Mais là, Mais le Sami, c'est notre préféré. Mais comme, on le sait depuis WrestleMania 38, que comme on veut que ça soit Cody qui gagne, mais Sami. Puis là, tu sais, fait que je pense qu'ils vont tous intertwine ces affaires-là.
Je t'avoue que je suis biaisée parce que dans le cadre de ma job, j'ai rencontré Sami Zayn.
Puis apparemment qu'il était fin.
Il était tellement fin. En fait, la WWE Community, à chaque fois qu'ils vont dans une ville, ils doivent comme redonner à la communauté, là, c'est leur truc. Puis à la relève. Fait que là, ils ont approché le club de petit-déjeuner pour lequel je travaille, pour aller servir des petits-déjeuners dans une école à Villeray, une école anglophone.
Mais John F. Kennedy.
John F. Kennedy.
Où, savais-tu que le directeur de l'école, c'est le premier gars contre qui...
C'est le VP. C'est le pas le directeur principal, c'est le...
Le VP de l'école. Le VP, okay, excuse-moi. De l'école. Oui. Que c'est la première personne contre qui Sami s'est battu dans un match de lutte. Puis apparemment qu'il le savait pas. C'est comme... Ben, que Sami savait pas que c'était le VP de cette école-là. C'est comme...
C'était quelque chose... Mais en fait, il était vraiment émotionnel parce qu'il était juste comme... Il parlait, puis il était comme... C'est comme si c'était un... Mais je pense qu'il avait vécu, que c'est un vendredi, fait qu'il avait vécu, tu sais, une semaine de feu roulant.
Ben
il avait
oui.
été honoré, il avait été voir les Canadiens, tout ça.
Ben, il a lancé des pucks, sa glace des Canadiens la veille, tu sais.
Puis genre comme, tu sais, même mon équipe et moi, on faisait des recherches, on voulait quand même se préparer pour comprendre c'était qui, Sami Zayn, puis son équipe, puis tout ça. Puis je me suis dit, il y a vraiment juste un espace comme la lutte qui permet que quelqu'un d'origine syrienne qui est roux, qui ouais. vient de Laval,
oui.
qui a passé 10 ans genre à faire genre de la lutte genre en Japon, devient comme genre un des plus gros hits de la WWE. J'étais comme, il y a vraiment juste la lutte qui permet tout ça là,
ouais,
tu sais. Puis genre attends, mais les jeunes capotent là, comme ouais, ça ouais. pouvait plus. Puis tu sais, il disait que genre pour lui c'était juste fou parce que tu sais, il racontait tellement de fun facts, mais tu sais, il disait comme genre que tu sais, il a commencé à genre se pratiquer genre à Schlaga, tu sais, il dit comme genre c'est à cause vraiment c'est la culture de lutte au Québec là, qui lui a appris à, en fait à, il disait que ce qui est parti avec le Québec, c'est qu'avec la lutte, ils apprennent vraiment à protéger leur père quand ils font des, genre des prises. Puis puis quand tu protèges bien tes pères, ben, t'es vraiment plus apprécié. Fait qu'ils te mettent dans des meilleures storylines. Parce que le monde est plus en confiance de faire genre des acrobaties parce qu'ils savent que tu vas prendre soin d'eux. Puis ça juste comme, tu sais, puis genre, lui puis Kevin Owens avaient commencé ensemble, genre à Schlaga, à un petit quartier-ville, tout ça. Puis ça juste blow up, c'est Kevin est rentré avant Sami Zayn. Mais il était tellement comme, il est juste tellement gentil, tellement accessible. Tu sais, il était comme, c'est juste weird, puis il était comme, il dit, j'habite comme à NDG, fait que c'est juste weird. Tu sais, c'était, il est vraiment, vraiment sympathique. Comme... Il était tellement ému d'être dans l'école parce qu'il était comme il dit à votre âge, je commençais vraiment sérieusement à me dire est-ce que je peux vraiment faire carrière dans la lutte. En tout cas, fait que c'était une fait que je connaissais pas c'est qui Sami Zayn. Là, je fais toutes mes recherches, puis là, j'étais comme mais il est une personne extraordinaire. Tu sais, quand même son personnage, j'étais comme il est juste raw, puis genuine, puis son acting, puis c'est juste wow.
Puis il a dit dans une entrevue l'année dernière que des fois il y a des gens qui sont pas contents parce qu'ils ont pas assez de temps d'antenne en train de lutter. Il dit, moi, ça me dérange pas parce que pour moi, ça fait autant partie de la lutte, ces espèces de moments-là de acting où est-ce qu'on est en train d'installer des storylines, où est-ce qu'on est en train de faire des trucs un peu rigolos, on est en train de faire des fois, c'est dramatique. Tu sais, beaucoup, Sami Zayn faisait beaucoup des affaires drôles. Puis là, ben là, écoute, c'est dramatique au bout, puis c'est comme les... Mais il dit qu'il aime autant ça. Fait que lui est heureux dans cette situation-là, que la lutte lui procure ces deux mondes-là à la WWE. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient comme... Daniel Bryan, c'est un bon exemple, là, qui est devenu... qui a pris son vrai nom de Bryan Danielson, dans le fond, pour... c'est ça? Daniel Bryan? Bryan Danielson? Ça me mélange tout le temps. Mais lui, tu vois, il est parti de la WWE, puis une de ses raisons, c'est parce qu'il était comme... Vous passez plus de temps à jaser qu'à lutter.
C'est correct aussi.
Mais c'est correct aussi. C'est
ça qu'il y a plusieurs fédérations, parce qu'il y en a qui sont plus athlétiques que d'autres.
Ben exact. Tu sais, j'ai regardé des matchs japonais pour la première fois récemment, puis j'ai fait comme, OK, c'est même pas la même dynamique. Là.
Non.
Mais c'est super impressionnant, mais c'est pas la même dynamique. Là. C'est des matchs de 45 minutes où est-ce qu'il se passe comme pas grand-chose pendant comme 7 minutes, puis après, il y a un 3 minutes où c'est comme bang, 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 bang. Puis là, mais je comprends après qu'il faut que tu te remettes de tout ça, surtout s'il faut que ça dure 45 minutes, tu sais, mais...
Mais c'est comme la lutte au Mexique, comme ils peuvent être plusieurs dans un ring, ce qui est super dangereux, puis c'est comme... Tu sais, comme oui, des fois, ils sont comme 4, puis des fois, comme genre, à la fin, ils sont comme 1 million, puis ça niaise, mais tu peux vraiment être un vrai match pendant un bout, genre 8 dans un ring.
Ben, puis mettons, à WWE, ça arrive pas souvent, mettons, non. Sauf, mettons, dans un cas de, justement, quand ils ont fait War Games ou un Royal Rumble, mettons, mais...
Ouais. Mais comme, t'es comme, OK, c'est une autre façon de faire les choses. Fait que, si t'as pas le goût de genre parler puis genre faire du genre talk shit pendant, il y en a quand même beaucoup là. En passant, comme celui que j'ai écouté, John Cena qui dit à Austin Theory, I'm the ghost of you. Il a dit quelque chose, puis j'étais comme
I'm the ghost of your future Christmas, of Christmas of the future. Ou
j'ai hurlé tout seul. J'étais comme what? J'étais comme le death.
Mais tu sais, comme mettons, moi, John Cena, je l'ai pas vu lutter beaucoup.
Moi non plus, j'ai comme aucun attachement à John Cena.
Mais je l'ai trouvé vraiment bon dans le show d'hier. Puis Austin Theory, tu vois, lui, c'est un gars que je trouve vraiment fascinant parce que il était à NXT.
Okay.
Puis il était, c'était vraiment un comique. Il était drôle. Tu sais, il était comme tellement ridicule que c'était drôle, mais les gens l'aimaient beaucoup parce qu'il était drôle, tu sais.
Il est pas drôle pantoute.
Mais il était comme drôle à ses dépens. T'sais, il était comme il était un peu naïf genre puis il était un peu candide puis là il se ramassait dans des situations difficiles puis là il était comme mais c'était drôle tu sais mais là dans le fond Vince McMahon a fait genre je te prends sous mon aile puis là il a voulu le monter en babyface puis là les gens l'aimaient pas parce que un peu de la même façon qu'il aimait pas Roman parce qu'il était comme c'est le préféré à Vince puis genre il va arriver n'importe quoi avec ce gars là mais là il est devenu vraiment heel quand il a manquer son cash-in de Money in the Bank.
Okay.
Puis je l'apprécie beaucoup parce que je pense que c'est il est plus jeune.
Mm-hmm.
Il est, tu sais, il a comme 23 ans, je pense.
OK, il a vraiment l'air jeune aussi. OK.
Ben c'est ça, tu sais, mais il a quand même il lutte bien, il a un bon range de jeu, il peut être vraiment drôle, il peut être vraiment méchant, il est plus crédible que d'autres personnes que je vois essayer d'être méchant puis que ça marche pas, mais je sais que les gens l'aiment pas beaucoup parce qu'il y a comme cette aura là d'avoir été le protégé de Vince.
Mm-hmm.
Mais je suis comme je pense qu'il y a un vraiment beau potentiel, tu sais. Mais voilà.
Mon autre crush, Bianca Belair. Oh my gosh!
Les plus beaux outfits du monde. Pour vrai, là. Mais c'est une excellente lutteuse aussi, là. Mais à chaque fois qu'elle arrivait dans le ring, parce qu'elle n'a jamais le même linge, là. Tu sais, il y en a qui ont tout le temps à peu près le même suit ou whatever.
Oui, elle est, comme Natalia, c'est un peu la même chose, un peu, là.
Ben, c'est ça, tu sais. Puis comme, qui ont comme, on dirait, comme leur costume de ring, ce qui est très cool aussi. Mais elle arrive, elle n'a jamais le même gear. C'est tout le temps magnifique, puis elle est bonne, puis ça fait... C'est ça, elle est championne depuis... Ben moi, depuis que j'ai recommencé à l'écouter, championne, puis elle est dans une grosse storyline. Ben, en fait, c'est qu'elle elle les accumule un peu, tu sais, parce qu'elle garde son titre quand même. Mais là...
Elle compte...
Asuka.
Asuka, genre, elle me fait magnifiquement peur. J'étais comme...
Asuka, c'est... Ça, c'est fascinant, OK? Parce que Asuka.
Comme, wow! Mais j'ai jamais vu une femme asiatique à ce point, à ce niveau-là. Fait que j'étais déjà juste fascinée de ça.
Mais elle a eu du mauvais booking. Ça passe pas bien. En fait, je te dirais.
Comment ça?
Moi, je pense que Triple H qui arrive là, c'est la meilleure chose qui peut arriver à Asuka. Parce que Asuka était à. Asuka était à NXT.
OK.
Puis ça allait super bien ses affaires. Ils l'ont monté. Puis dans le fond, elle avait jamais. Une affaire du genre, elle avait jamais perdu un match.
Okay.
Puis, dans le fond, elle a jamais perdu un match, mais elle a fini sa streak, dans le fond, de match. Elle a fini par perdre à WrestleMania contre Charlotte Flair, qui a gardé son titre de championne de SmackDown à ce moment-là.
Ce qui n'est pas anormal, ce qui est quand même.
Puis, qui était une bonne histoire. Mm-hmm. Comme, c'était une bonne histoire. Mais à partir de là, Asuka, c'était pas bon. Genre, elle n'a pas été super bien traitée, je te dirais, en termes de qualité de booking et de qualité de storytelling.
Peut-être qu'ils savent pas quoi faire avec son personnage parce qu'il est tellement flamboyant.
Mais ça, c'est un nouveau personnage. Le personnage que tu as vu, c'est sa nouvelle gimmick depuis genre quelques semaines.
Ah, oh, je l'aime. En tout cas, je sais pas ce que, mais moi, j'étais comme, oh shit, je suis comme, elle a genre de la couleur dans la bouche.
Ouais, c'est ça, tu sais. Puis parce que là, elle faisait un espèce de. Tu sais, elle faisait là, son affaire de comme de pitcher de la couleur, mais je pense que sa couleur était verte. Puis là, elle est rendue bleue.
Ouais.
Mais là, elle a comme son maquillage de. Puis c'est fou. Puis dans le fond, là, elle a comme sa nouvelle affaire aussi que quand elle est pas en lutte, elle est comme habillée. Qu'elle a l'air un peu inoffensive avec ça, genre ses talons hauts, ce qui est comme absolument pas elle, mais tu sais, comme talons hauts, petit tailleur blues. Mais là, elle fait juste comme. Puis elle a des verres de contact maintenant. Fait que c'est comme juste un peu horreur, comme l'étrange. La malaisante étrangeté. En tout cas,
cette affaire-là. Je peux dire, oui.
Mais tu sais, l'inquiétante étrangeté.
Oui.
C'est ça, c'est juste un petit peu à côté de la coche, genre quand t'as fait ça. Puis je trouve que c'est vraiment brillant. Fait que. Je trouve ça intéressant aussi que même si Asuka serait censée être heel, parce que Bianca est babyface, puis qu'elle, tu sais, elle pitch des affaires de sa bouche, puis tout ça, tu sais, mais qu'elle lui a comme montré du respect avant leur combat.
Oui, j'ai mis comme genre son combat, puis j'étais comme, ah, il n'y a pas de mauvais coup, de truc, c'était juste comme.
Mais non, il était dans la même équipe. Il était dans la même faction, si tu veux, il y a quelques semaines. Fait qu'elle est comme partie, en fait, elle puis dans le fond, ils ont pas la même histoire, mais elle et Alexa Bliss, qui étaient dans la même faction, se sont comme séparés du groupe Alexa Bliss parce qu'elle est virée dans le culte de Bray Wyatt, mais c'est pas clair, puis on sait pas trop, puis en tout cas, notre affaire. Puis Asuka est partie, elle avait vraiment juste l'air démolie, elle avait l'air en tabarnak, puis elle est partie, on l'a pas vue pendant longtemps, puis elle est revenue, puis elle avait cette gimmick-là. Puis elle a gagné Royal Rumble, puis...
Wow.
Elle a pas gagné Royal Rumble, c'est pas vrai. Non, c'est... Non, elle a pas gagné. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné l'Elimination Chamber. C'est ça. C'est comme ça qu'elle a eu le qu'elle a pu avoir accès au combat pour la ceinture.
OK, mais maintenant qu'on parle de lutteuse, puis qu'on est, on est des Amazones, qu'est-ce que tu penses de comment la femme est perçue dans la WWE aujourd'hui? Parce que moi, justement, ce que j'ai vu quand j'étais jeune, fait qu'il y avait pas... C'était encore dans les stéréotypes, puis il y avait China.
Mais j'ai regardé des vieux pay-per-views. Je le fais une fois de temps en temps, je le fais.
Ça fait mal.
le WrestleMania 30,
okay.
Ça fait mal. La fois où Daniel Bryan était over, puis qu'il était dans une situation comme Sami Zayn, puis que sa storyline était folle, puis c'était tellement bon, puis comme... Puis là, t'avais The Divas Championship, puis c'était comme... C'était des... T'avais comme deux, trois personnes qui étaient très talentueuses, puis comme... Ça avait pas rapport. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle de ça, mm-hmm. Il y avait NXT. C'est à NXT que les talents féminins, Bayley, Sasha Banks, Charlotte Flair, puis...
Rhea Phillips?
Non, mais non, voyons, on l'a dit. Là.
Natalia?
Non, voyons. Sasha?
Bianca Belair.
Non, parce que Bianca Belair, il m'en manque une. Bayley, Charlotte. Bien. Là, il y a des gens qui me crient là, à la maison. Là, c'est qui là? Sasha, voyons. Becky Lynch.
Okay.
OK. Fait que ça, ces quatre filles-là, c'était les Four Horsewomen.
OK.
Qui était une référence aux Four Horsemen, qui était comme une mm-hmm. autre faction d'avant. Puis ces femmes-là sont arrivées. Charlotte Flair est arrivée. Elle a gagné la Divas Belt, puis c'est devenu la Women Championship. C'était plus la Divas Belt. Puis ils ont vraiment changé tout ça. Fait que c'est sûr que, mettons, on parle de corps divers. Pour moi, mettons, une Nikki Cross, que je sais pas si t'as vu dans le Raw de hier, mais. Tu sais, qui est comme qui joue vraiment pas sur la féminité, qui joue vraiment dans une dynamique très différente. T'sais, c'est sûr qu'il y a c'est des corps athlétiques. Fait que ce soit des corps grands, petits, des personnes grosses, des personnes minces, pis tout ça, c'est des corps athlétiques. Fait que c'est sûr qu'il y a cette notion-là, mais t'as aussi ces espèces de tu peux avoir des personnes qui vont aller dans une performance de féminité très, très, très intense, comme une Carmella de ce monde, mettons. Pis t'as des personnes.
Mais Carmella, j'étais comme, this is. C'était pas, tu sais, genre, je me dis, c'est correct d'avoir ce persona-là, mais j'étais comme, ça me ramenait back à genre quand j'étais jeune, puis j'écoutais ça dans les années, genre 2004, 2005, j'étais comme, ah ouais, il y a encore des personnages comme Carmella.
Mais c'est ça, mais tu sais, elle est pas fine, puis elle est over the top, puis là, elle va probablement devenir un tag team avec Chelsea Green, qui est une Canadienne.
Ouais.
Qui les deux sont vraiment dans le, excuse me, genre, vous me devez toutes, parce que ouais. Je suis une star. Fait que. Ils ont ça, mais vu s'il y avait que ça, parce que j'ai l'impression qu'avant, il y avait que ça. Et China qui était là.
C'est ça, il y avait comme que ça et China.
Puis maintenant, t'as tout. Tu sais, t'as des gars comme Austin Theory qui pensent qu'ils sont le bout de la marde, puis qui justement, tout leur est dû parce qu'ils sont jeunes, ils sont beaux, puis tout ça.
Mm-hmm.
Puis t'as d'autres genres de personnes aussi. Fait que je trouve que cette nuance-là est importante. Ce qui me fascine, c'est que la plupart des femmes que tu sais duquel on peut penser les grandes superstars, il y en a beaucoup. En fait, ce qui m'a marqué quand j'ai recommencé à l'écouter, parce que c'est des gens que j'avais vus il y a comme 4 ans, là, mm-hmm. Il y avait comme 4 ans de différence, ils se sont toutes fait refaire la face. Puis j'avais fait le commentaire devant des gens qui m'ont dit comme, ben là, tu peux pas être dans le jugement, puis tout ça. Puis j'étais comme, je suis pas dans le jugement de l'action en soi. Les gens ont le droit de se refaire la face. Ça me dérange pas. T'sais, ils ont le droit d'avoir des chirurgies plastiques, ils ont le droit d'avoir des implants, ils ont le droit d'avoir tout ce qu'elles veulent. Okay? C'est pas ça l'enjeu. Mais ça m'a fasciné que systématiquement, toutes les femmes à peu près en haut de 32 ans étaient presque toutes comme avaient toutes eu de la chirurgie plastique.
C'est comme si c'était comme il y avait comme un c'est comme si l'âgisme était comme pas il y avait de l'âgisme en fait, c'est comme si on veut pas les voir vieillir.
Mais il y a pas, c'est ça, tu sais, mettons tu as des Stone Cold Steve Austin qui peuvent revenir puis qui peuvent avoir l'air de l'âge qu'ils ont.
Ouais.
Mais toutes les femmes qui reviennent ou qui ont plus que, c'est ça que je disais, 32 ans. Parce que tu sais, comme Becky Lynch, elle s'est fait refaire la face, mais à sa défense, c'est parce qu'elle s'est fait pété le nez. Tu sais, comme elle s'est faite la cousine à The Rock, là, justement, ou en tout cas, elle n'est pas dans la famille à The Rock, là, mais une autre de ces personnes-là, de ce grand clan-là, de tout ça. Voyons comment elle s'appelle. En tout cas, elle, là, Nia Jax, elle lui a donné un coup de poing, puis ça, écoute, ça lui a détruit le nez. Là. Fait qu'elle s'est fait refaire le nez. On s'en fout, là, je veux dire, comme crime, on s'en fout. Là. Mais c'est ça. Ça m'a juste vraiment marqué à quel point les corps étaient vraiment, vraiment refaits. Puis j'ai l'impression que je suis curieuse de voir comme c'est les jeunes talents de 22, 23 ans aujourd'hui, est-ce que ça va se perdurer? Est-ce qu'il va y avoir d'autres corps que ces corps-là? Parce que il y a des corps différents, là, si je peux le dire comme ça, qu'on parlait, mettons, diversité corporelle avec, comme, mettons, Piper Nevin, c'est un bon exemple, tu sais, c'est une femme grosse qui lutte, mais Piper est plus jeune. Est-ce que justement, l'arrivée de ces nouveaux types de corps-là de chez les plus jeunes vont se perdurer dans le temps? Parce qu'on dirait que toute cette génération-là ont tout ça. L'autre affaire qui me gosse par rapport aux personnes femmes, ben, qui me gosse ou que je remarque, c'est que, mais depuis que Triple H est là, des main events de femmes, comme le Royal Rumble des femmes est arrivé après celui des gars.
OK.
Ça a eu des conséquences, parce que, mais ils l'ont pas raccourci, celui-là, par exemple. C'est pour ça que le pay-per-view est comme 4h20, comme ça n'a pas de sens, là. Mais il fait souvent, Triple H, il fait commencer ses pay-per-views et ses shows en général, il dit « on commence avec la grosse affaire puis on finit avec la grosse affaire ». Ce qui n'était pas apparemment la façon de faire avant, tu sais.
En effet.
Puis, on dirait qu'il fait comme un genre de « là, c'est le tour des gars, là, c'est le tour des filles, là, c'est le tour des gars, là, c'est le tour des filles ». Sauf que là, quand on regarde les grandes storylines importantes, les plus over storylines importantes, Cody Rhodes contre Roman Reigns, les frères Ousso contre... Mm-hmm. Fait que là, je suis comme...
Les filles tombent en bas.
Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec les main events de WrestleMania. Parce qu'avant, c'était comme, des fois c'est des gars, des fois c'est des filles, des fois c'est des gars, des fois c'est des filles. Mais là, vu qu'il y a deux soirs depuis 2020, dans le fond, il y a le WrestleMania du samedi puis il y a le WrestleMania du dimanche. Mais techniquement, il faudrait que tu fasses finir une des soirées par les filles puis une des soirées par des gars si tu voulais être paritaire, tu sais. Ouais. Mais là, j'ai pas l'impression que ça va se passer. Mais c'est pas parce qu'ils finissent pas qu'ils peuvent pas avoir une bonne place. Mais c'est ça. J'ai juste peur que les storylines en ce moment, tellement over, c'est tout porté par des gars, que je sais pas ça va être quoi l'impact sur leur place dans les main events.
Je trouve que c'est quand même pas super, parce que de ce que je me rappelle quand j'étais enfant, souvent les filles étaient dans les main events parce qu'elles devenaient les copines d'eux. Fait que je me dis, ce que tu me dis, je sais que c'est pas idéal, mais c'est mieux que...
Ah, ça a rien à voir.
J'étais comme, ah, OK, dans le main event, parce qu'elle est devenue la copine d'eux, ou dans la storyline, ah, il était fâché, fait qu'il a volé la copine de genre Macho Man, puis le Macho Man, il vient parce qu'il veut sa pitoune, puis là, toi, t'es comme, pourquoi tu barouettes la fille? Fait que tu te dis comme, c'est déjà mieux.
Ah, c'est sûr que ça a rien à voir. Mais c'est sûr que moi, mon comparatif, c'est
oui,
il y a 4 ans. C'est... Puis, genre, le pay-per-view que j'ai vu il y a 10 ans, qui datait d'il y a 10 ans.
Mm-hmm.
Mais je pense que ça va aller quand s'améliorant par rapport à ça. Mais clairement, les femmes sont pas moindres que les gars. T'sais, la seule chose que je me demande, c'est en ce moment, le nombre de ceintures est disproportionné. C'est sûr qu'il y a plus de talent
masculin
que de talent féminin. Mais tu sais, comme en ce moment, pour les gars, il y a un, deux... Mettons qu'on met tag team ensemble, là, genre c'est comme deux ceintures, mais c'est une. Il y en a comme la tag team de Raw, la tag team de SmackDown, le champion de Raw, le champion de SmackDown, puis Intercontinental, puis États-Unis, il y a 6 ceintures. Puis dans le fond, pour les filles, il y a championne à SmackDown, championne à Raw, tag team à Raw, tag team à SmackDown. Fait que tu sais, il y a moins de ceintures. Qu'est-ce qui va se passer avec ça, je sais pas. Mais je serais curieuse de voir si ils vont peut-être essayer d'en rajouter. Là, parce que c'est quand même des bonnes histoires quand c'est comme pour courir après des ceintures.
Là. Mais question aussi par rapport à la relève. Parce que, genre, tu sais, je connais pas tous les noms, mais dans les gens qui étaient venus aussi avec Sami Zayn à l'école secondaire, il y avait Natalia, puis il y avait Liv, puis il y avait une autre fille que j'en rappelle plus le nom.
Okay.
Puis les filles me racontaient que Liv, elle a dit que, genre, depuis qu'elle avait 4 ans, qu'elle voulait devenir comme catcheuse.
Oh oui, oui.
Mais les autres sont comme, ils sont arrivés là par d'autres moyen. Fait que j'ai l'impression que je me demandais est-ce que ce métier-là, ce sport-là est de plus en plus accessible aux filles? Est-ce que les filles... Tu sais, il y a beaucoup de gens de Sami Zayn, de tous les autres qui sont comme depuis qu'ils sont enfants, ils veulent devenir ça.
Ouais.
Mais les femmes, c'est souvent genre comme, ah, oh, j'ai fait un... Il y en a une à me dire que genre, j'ai fait un bac, genre, je sais pas moi, en kiné, puis je suis comme tombée là-dessus par hasard. Puis j'étais comme, ah, oh, c'est-à-dire que dans ce sport-là, il est moins partagé aux femmes. En tout cas, je trouve ça comme spécial.
Puis en ce moment, il y a beaucoup de rayonnement de lutteuses dans toutes les divisions, beaucoup de lutteuses du Québec aussi, qui se font booker dans des gros shows aux États-Unis, puis tout ça. Puis ce que je remarque aussi, c'est, tu sais, je pense que China pétait la gueule à des gars.
Ah oui, big time.
Mais là, ça arrivait comme plus vraiment.
Et puis, c'est à cause de sa stature, je pense, qui se permettait de...
Mais là, Rhea Ripley...
Elle fait peur.
Elle était babyface il y a un an, là. T'sais, fait que là, elle a
oh,
fait...
pour vrai?
Oui, oui, je te montrais des photos, là. Ses cheveux noirs, là. It's not... genre, elle les colore avant chaque show. Parce qu'elle est blonde. Et genre, blonde chantaine dans la vraie vie. Comme tu
ça
regardes
fait,
des images d'elle
ça
qui s'entraîne.
Ça ses cheveux. Ça salue personne. Mais... pour vrai?
Ouais. Mais dans le fond, Rhea Ripley... elle a pété la gueule elle a eu un vrai match. En fait, c'est même pas, elle a pas pété une gueule. Elle s'est fâchée contre un gars parce qu'il avait tapé son chum. Mm-hmm. Son chum qui est faible, parce que dans la vraie vie, Dominic Mysterio, il est en couple avec la même fille depuis que 15 ans, pas vraiment, là, un enfant de même. Mais son chum dans le jeu, il a pété la gueule, puis il a donné même pas. Il a pitché de l'eau. Une niaiserie, là. Il a pitché de l'eau. Puis là, Rhea Ripley a fait comme « Yo, je t'en ai que tu me manques de respect, nanana! Toi puis moi, dans le ring! Maintenant! » Puis là, Adam Pearce est arrivé, le booker, le general manager des shows. Il est arrivé puis il a fait comme « Vous le voulez? La foule le veut? Il y a un match! » Fait que je pense qu'ils vont amener ça de plus en plus parce que dans les autres fédérations, ça existe des matchs mixtes. Mm. Puis pas juste des matchs mixtes parce que comme on se donne la tag, puis là, les filles embarquent, puis on se donne la tag, puis là, les gars embarquent, là, que tout le monde se tape dessus puis que c'est fait de façon intelligente, tu sais, puis qu'on peut raconter des bonnes histoires avec ça, tu sais, parce que on s'entend, il y a pas de raison de se dire que comme le talent, tu sais, le talent c'est le talent, c'est oui. Après que t'es capable de faire, tu sais, peut-être que tu vas dire mettons, ah oh, ben je pense pas que Alexa Bliss peut lever Amos, le géant de Nigerian Giant qui est comme 7 pieds 3, peut-être que Alexa Bliss peut pas le lever dans, peut-être qu'elle peut, mais peut-être qu'elle
pas rapport.
Mais en même temps, il y a plein de lutteurs gars qui peuvent pas le lever dans les airs non plus là, tu sais, c'est ça là, ça pas une affaire de genre à signer là, c'est une affaire de comme yo. Pour vrai, là, on a tellement parlé, puis genre, j'ai rien dit de ce qu'on avait noté.
Mais je pense que genre, ceux qui sont vraiment amateurs de lutte ont eu pour leur compte. Ouais. Ceux qui ne sont pas encore, n'entendez plus.
Mais là, ce que j'aimerais, c'est qu'on se retrouve peut-être dans quelques mois. J'aimerais ça qu'on reparle peut-être de tout ce qu'on n'a pas eu le temps de parler par rapport à plein de choses.
Peut-être.
Puis peut-être aussi que, qui sait, peut-être que tu vas en écouter un peu plus, puis qu'on va avoir des référents communs. Ou tu pourras me conseiller tes meilleurs pay-per-view qu'il faut que j'aille revoir du passé, maintenant que...
Ah, mais il y en a plein. Comme là, genre, en fait, parce que, à partir, quand j'ai, la dernière fois que j'ai su que c'était faux la lutte, qu'à un moment, t'as un enfant, tu penses que c'est vrai, c'est, je demandais à mon père aujourd'hui, il se rappelle plus si c'est entre 2001 puis 2003, mais Stone Cold Steve Austin, il y a eu un combat le vendredi saint, puis ils l'ont rentré dans un cercueil. Puis il n'y avait pas de combat jusqu'au dimanche.
Ah, mais la résurrection.
Moi qui avais 4 ans, j'ai regardé mon père, puis j'ai vraiment dit, il faut qu'on appelle. J'ai dit genre, mais il faut qu'on appelle. J'étais comme, what are we doing? Puis là, mon père, il a ri. Puis il était comme, il va être correct. J'étais comme, t'as-tu vu ce que j'ai vu? Puis là, il a dit m'expliquer que c'était faux. Là, tu sais, comme genre, j'étais comme, ah, je suis pas sûre. Puis arrivé au dimanche, son co-sous-ancien est sorti tel un Jésus de son cercueil, puis il a battu tout le monde. Puis j'étais genre, this is not possible. I've seen people in... C'est là que j'ai compris, en fait, que c'était faux. C'est quand Steve Austin il est revenu à la vie dans un cercueil.
Puis je vais citer d'autres personnes qui amatrices de lutte qui m'en parlent beaucoup, puis ici souvent dire oh mais la lutte c'est fake. C'est comme la lutte c'est pas fake, la lutte c'est scripté.
Oui,
mais c'est pas fake. Les gens, les prouesses qu'elles font, ce sont des vraies prouesses.
Oui.
Puis j'espère que c'est scripté et arrangé et mis en scène, parce que les choses qu'on voit, si ça arrivait dans la vraie vie, c'est comme quand t'écoutes plein de films de super-héros. C'est pas vrai que tu peux tomber de cet étage-là puis pas te péter le pied. Là. Ça n'arrive pas. Mmh. La même chose avec la lutte. C'est du spectacle, mais c'est tellement au-delà de la question de est-ce que c'est fake ou c'est pas fake. La vraie question, c'est est-ce que tu obtiens du plaisir en l'écoutant? Puis si oui, ben tant mieux. Moi, c'est pour ça que je l'aime, parce que je me dis, ben c'est des gens qui sont tous consentants à se péter la gueule.
Oui.
À se péter la gueule avec des guillemets.
Ils sont respectueux, en tout cas, bref.
Exactement. Hermanie, on n'a vraiment pas vidé la question. J'espère vraiment qu'on va avoir d'autres occasions d'en parler.
Of course.
Mais merci tellement d'être venue en parler avec moi. Genre,
j'étais contente.
Comme so heureuse. Ma fête, c'est le 9 mai, puis il y a une émission des Amazones. Fait qu'au pire, on fera ça pour ma fête parce que je vais vouloir me faire plaisir. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et à dans 2 semaines pour d'autres Amazoneries. Bye!
Bye!